L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévot.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous voilà pour une nouvelle émission avec l'évangile pour le couple. Et donc Maud, aujourd'hui, c'est un sujet qui peut paraître délicat, voire rébarbatif. Et au contraire, c'est un chemin vraiment de libération au sens propre.
Voilà, c'est-à-dire que nous avons parlé pendant tout le début de cette série d'émissions sur l'appel au bonheur que le Christ nous propose. Et maintenant, on va rentrer un peu dans le comment accueillir cette révélation, ce salut du Christ, et rentrer nous-mêmes dans une démarche où, je veux dire, on va mettre aussi notre énergie au service de cet appel au bonheur. Donc, rentrer dans un combat, comme dit saint Paul.
Voilà, et alors, pour prendre le combat par excellence, c'est le combat de Jésus au désert. Et donc, Maud, on va lire cet évangile qui est dans Luc, au chapitre 4. Et donc, beaucoup connaissent effectivement ce passage, le début de la vie publique de Jésus, où d'abord Jésus s'est retiré au désert et a affronté le démon et la tentation. Tu veux nous le lire ?
Après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là, et quand ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit,
si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain.
Et Jésus lui répondit, il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. L'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers, et il lui dit,
je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière.
Et Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit,
si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent.
Et encore,
sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes de pied quelques pierres.
Mais Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable.
Voilà, donc au travers de ce texte, toute la tradition chrétienne y voit en fait, au travers de ces trois grandes tentations, comme un peu le résumé des trois grandes fractures du cœur de l'homme. Les trois grands domaines, si on peut dire, où excelle notre péché, où se déploie, où fructifie notre péché. Et en fait, à ces trois grandes blessures correspondent, si on peut dire, les trois grandes réponses que, en tant que croyant, on essaye d'apporter pour combattre ce péché. Et c'est la conversion à laquelle Jésus nous appelle, et bien sûr dans laquelle l'Église après s'inscrit, bien entendu, dans cet appel, à la fois au niveau des personnes, mais à la fois au niveau des couples. Maud, tu veux aborder peut-être la première tentation ?
Voilà, je pense que c'est vrai que quand on va parler de ces trois tentations, en fait, ce sont les trois grandes familles, je dirais les mères de toutes les tentations qu'on a. Elles se résument en trois familles sur lesquelles l'Église propose aussi des remparts. Donc la première tentation qui consiste à changer les pierres en pain, c'est effectivement celle qui consiste à détourner la réalité des choses à son propre intérêt, de détourner le spirituel pour le temporel, de faire en sorte que les choses soient à mon service en fonction de ce que j'ai envie d'en faire, plutôt que au service de tous et puis dans le respect de ce que les choses sont elles-mêmes. Donc cette tentation en fait touche encore à l'aliment, voilà encore une tentation qui parle de nourriture, et on connaît tous les textes, soit de l'Ancien Testament, soit du Nouveau, qui abordent cette question de la faim et de la soif. C'est vrai qu'on est obligé, en tant que croyant, de lire aussi ça au deuxième degré, c'est-à-dire quelle est ma faim, quelle est ma soif. Est-ce que ma faim et ma soif, ce sont que des choses matérielles, que des choses temporelles, que je vais utiliser pour me rassasier?
Alors c'est pour cela que, en lien justement avec la vie conjugale, la soif d'amour, la soif de communion entre un homme et une femme. Nous aimons rattacher cette tentation de Jésus et la réponse qu'il opère, c'est, il dit au diable, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. C'est un peu la même réponse qu'il a apportée, Maud, à la Samaritaine. Comme quand la Samaritaine l'interpelle, mais donne-moi de cette eau que je n'ai plus jamais soif. Et Jésus lui dit, l'eau que je te donnerai, si quelqu'un boit de cette eau, l'eau du puits, il aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire que vraiment, Jésus nous invite constamment à regarder quelle est la vraie soif de nos cœurs, de nos vies. Quelle est la vraie soif quand nous exprimons l'amour l'un vis-à-vis de l'autre, lorsqu'un homme aime une femme, lorsqu'une femme aime un homme, bien sûr qu'il l'aime en tant que personne. Mais si jamais il se dit que tout l'amour qu'il doit recevoir et tout l'amour qu'il doit exprimer se résume à son conjoint, mais tôt ou tard, parce que nous sommes des êtres limités, forcément, à un moment, la soif n'est pas étanchée. Et donc, Jésus nous interpelle également dans le domaine de l'amour en disant, oui, je t'engage bien sûr à aimer l'autre, mais vois, est la lecture de ta vraie soif d'amour, est la vraie lecture du sens de ta sexualité, de ce qui t'attire vers l'autre. Derrière cela, c'est moi que tu recherches, parce que tu es image de Dieu et tu recherches Dieu. Et derrière l'amour, toujours tu rechercheras Dieu. Donc je t'invite à regarder cela. Sinon, effectivement, tu vas partir dans des recherches qui ne sont pas les bonnes.
Des pis-allers, des détournements de ta soif existentielle. En fait, ce que Jésus fait, c'est qu'il nous resitue, en répondant au diable, par rapport à l'essence même de l'homme. L'homme n'est pas fait que pour du pain, il n'est pas fait que pour du matériel. Et donc la première tentation, la meilleure réponse que l'Église a trouvée, c'est de proposer un engagement, un choix délibéré de vie, qui est aussi une ascèse, qui est un désir, qui est celle de la pauvreté. C'est-à-dire que si l'on s'engage sur une vie, disons, de pauvreté pour les consacrés, on va dire de simplicité de vie pour les couples, c'est aussi parce qu'on sait que ce désir de l'avoir et du bien-être n'est pas le tout de notre vie. Et donc on manifeste qu'on a une liberté par rapport à l'avoir et on grandit dans cette simplicité de vie.
Voilà, on peut regarder peut-être la deuxième tentation que combat Jésus, cette seconde tentation, et l'invitation donc faite par Satan à Jésus de se prosterner devant moi, afin d'obtenir autorité sur tous les royaumes de la terre. Voilà. Voilà. À cette angoisse viscérale de l'homme de ne pas être aimé, répond toute cette machinerie trompeuse du grand rêve, hein. C'est le malin qui nous engage à se prosterner et à adorer l'idolâtrie, à adorer ce qui n'est pas Dieu. Et on le voit bien dans le monde aujourd'hui, que ça soit effectivement le sexe, l'argent, le pouvoir, et combien d'idoles, de fausses idoles, qui nous dévient de la seule adoration, qui est l'adoration de Dieu. Et ces idolâtries n'en sont pas mauvaises dans l'absolu, mais parce qu'elles produisent effectivement des fruits stériles, des fruits de mort dans nos vies. Et donc nous avons vraiment, en tant que couple, en tant que personne, mais aussi en tant que couple, à nous recentrer toujours sur l'essentiel, qui est l'adoration du vrai Dieu. À toujours être vigilant à ne pas poursuivre de faux dieux.
Voilà, puis la question posée est aussi celle du pouvoir. C'est-à-dire que quand on court après le pouvoir, qu'on veut se mettre en avant pour dominer les autres, le Seigneur nous rappelle que tout pouvoir que nous recevons vient de Dieu et que c'est lui qui est notre maître. Et donc, rentrer en obéissance avec Dieu, c'est rentrer dans une vraie liberté. Et on en a déjà parlé dans une précédente émission, mais je pense que c'est important de le redire ici. Autrement dit, ce que l'Église propose à nouveau comme rempart à cette difficulté de placer les choses dans le bon ordre, c'est l'obéissance, dans le sens de la soumission à une volonté d'amour. Alors il faut bien dire que c'est d'amour, parce que si c'est une volonté tyrannique, la soumission n'est pas bonne. Mais une soumission d'amour, ça veut dire rentrer dans l'obéissance à la volonté de Dieu, qui ne peut être que pour notre plus grand bonheur.
Et c'est ça qui est complètement libératoire, c'est ça qui est une très très bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne vient en rien nous briser notre liberté, mais il vient l'épanouir, il vient la dilater. Car quelle est vraiment notre vraie prison? C'est celle du péché. Et si nous adorons Dieu, si nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il est, alors véritablement, nous pouvons dilater notre cœur. Quelle est notre vraie prison? C'est notre dureté de cœur. Et c'est justement en nous tournant vers le Seigneur et ensemble vers le Seigneur, en tant que couple, que nous pouvons, je dirais, recevoir cette dilatation et cette liberté. Et puis, Maud, troisième tentation, cette mise à l'épreuve de Dieu, cette tentation du Seigneur de la part de Satan.
Oui, alors ça, c'est une très mauvaise habitude que nous avons, et je pense que beaucoup se reconnaîtront. On a un peu la tentation sans arrêt de marchander en amour, de négocier, et particulièrement avec Dieu. Ah ben, si tu fais ça, je ferai ci, si tu me fais ça, je ferai ça. Ça, c'est du caprice. On n'est pas du tout dans une relation adulte, et on n'est pas du tout dans une relation qui est libère. On est dans une sorte de dette mutuelle, voilà. Tu me dois ça parce que je t'ai fait ça. Et dans l'amour conjugal, c'est terrible quand on rentre dans cette logique-là. Alors j'ai mis le couvert, tu dois faire ci, j'ai fait ci, tu fais ça. Et là, on rentre dans un esclavage comptable qui n'est pas la voie que le Seigneur a choisie et qui est celle de l'amour vrai. L'amour vrai est celle qui justement accepte de rentrer dans un amour vrai qui ne met pas à l'épreuve l'autre, mais qu'il le respecte.
Alors deux petits flashs peut-être, c'est que justement par rapport à cette tentation du Seigneur, tenter le Seigneur, l'éprouver, c'est une attitude spirituelle qu'on peut avoir, on va essayer de marchander avec Dieu, je t'ai fait ceci ou je t'ai fait cela, mais écoute, j'étais tellement, je pratique, donc tu comprends, tu pourrais être plus gentil avec moi, ou pourquoi toutes ces épreuves, etc., etc. Donc on est en train un peu de marchander avec Dieu. Voilà, donc quel est l'antidote, Maud, de cette attitude, de ce marchandage avec Dieu?
Voilà, alors l'antidote, c'est justement l'appel à la chasteté. La chasteté au sens étymologique, c'est-à-dire le respect de l'autre, le respect de Dieu pour ce qu'il est. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser l'autre pour en faire ma chose, et je ne vais pas utiliser Dieu pour qu'il m'arrange quand ça m'arrange, je vais le respecter pour ce qu'il est et rentrer en relation avec lui. Et au niveau du couple, c'est pareil. Je ne vais pas utiliser mon conjoint pour mes besoins, mes caprices, mais je vais être à son service pour le rendre heureux. Et à ce moment-là, on rentre dans une relation beaucoup plus belle.
Alors on va aborder, c'est tout ça, on passe en revue, Maud, très rapidement, ces trois tentations avec les éléments un peu symboliques. Et on va aborder dans cette deuxième partie d'émission davantage les racines de ce combat. Pourquoi il y a ce combat vraiment nous prend, et pourquoi il faut effectivement l'accepter, ce combat, et le mener avec les bonnes armes. Et on va voir ça aussi pendant deux, trois émissions. Mais d'abord, une petite pause et on reprend tout de suite après. Nous voilà à nouveau ensemble pour l'évangile pour le couple, et nous sommes en train d'aborder une question délicate du combat spirituel, Maud.
Oui, nous avons repris le texte de Jésus, donc tenté au désert, avec les trois grandes tentations et les trois, je dirais, ouvertures que l'Église fait pour répondre à ces tentations, qui sont les trois vœux aussi, pauvreté, chasteté, obéissance. Et maintenant, je pense, Alex, que ce serait important de resituer pourquoi ce combat, pourquoi est-ce qu'on parle avec ce terme très guerrier, d'un combat, d'une lutte, d'une bagarre.
Je pense qu'il faut vraiment, on va pas faire de la grande théologie, c'est, on va simplement essayer de se rappeler quelles sont les bases de l'anthropologie chrétienne. Et les pères de l'Église, d'ailleurs, ont beaucoup travaillé ces questions-là et ils nous donnent vraiment les clés. Rappelons-nous, avec Genèse 1 et Genèse 2, nous avons vu combien notre première nature, telle que nous a créé le Père, c'est vraiment d'être à l'image de Dieu. Et donc nous sommes faits pour Dieu, à la fois au niveau de la personne et à la fois au niveau du couple. Et donc nous sommes vraiment, c'est vraiment inscrit en nous. Et puis nous avons eu la fameuse expérience du péché. Et comme disent les pères, c'est l'expérience d'une deuxième nature, une nature pécheresse. Et donc en fait, finalement, en nous cohabitent ces deux natures, c'est-à-dire qu'à la racine, le plus profondément, existe cette nature éternelle de bénédiction, et puis cette nature pécheresse a comme complètement dévié cette première nature et a créé comme l'illustre l'expérience d'Adam et Ève, qui se trouvent nus l'un devant l'autre, qui se cachent l'un devant l'autre, etc., etc., et toute la relation complètement faussée, à la fois avec eux-mêmes, avec Dieu et entre eux.
Voilà, c'est pour ça qu'on a parlé à ce moment-là de triple fracture. Donc il y a eu trois blessures qui ont touché dans toutes les relations de l'être, et à ces trois blessures correspondent justement dans ces failles, je dirais, du cœur de l'homme, trois tentations dont on a parlé tout à l'heure.
Voilà. Et donc, comme dit la liturgie notamment orientale, qui est tellement riche de la vie spirituelle et de notre expérience spirituelle, qui confesse à la fois « Je suis l'image de ta gloire indicible, bien que je porte l'ulcère de mes péchés ». Voilà. C'est cette double existence en nous qui fait qu'effectivement, il y a combat. Et donc, dans cette première nature, comme nous sommes tous à l'image de Dieu, même les non-croyants, je dirais, sont habités par l'Esprit-Saint. Et c'est aussi en cela que l'Église reconnaît qu'en tout homme, en tout couple, existe cette image de Dieu. « Ma loi est inscrite sur chacun de vos cœurs », dit le prophète Jérémie dans le chapitre 31. Voilà. Et de même, saint Paul parlera des païens en disant « Les païens, lorsqu'ils agissent de manière droite, illustrent que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. » Donc voilà, c'est cette première loi de Dieu est inscrite dans le cœur de tout homme. Et puis, inversement, notamment au niveau conjugal, ça a été tout le propos de Jésus lors de sa controverse avec les pharisiens concernant le mariage et le divorce, dans Matthieu 19, où Jésus parle de la dureté de cœur, voilà, de la dureté des cœurs, qui fait qu'à un moment, un homme et une femme, ils n'arrivent plus à s'aimer, ils n'arrivent plus à être fidèles l'un avec l'autre, etc. Et puis, Maud, c'est aussi ce que constatera saint Paul.
Voilà, saint Paul dit son épître, « Je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais ». Ça, c'est une expérience qu'en couple, malheureusement, on fait presque quotidiennement, j'aurais dire, peut-être pas toutes les heures, mais très fréquemment, et même dans toute relation, on voudrait faire plaisir, on voudrait aimer l'autre, et puis on s'y prend mal, on est maladroit, on fait mal à l'autre, on le blesse alors qu'on voulait pas le blesser, et ça fait des histoires pas possibles pour dénouer tout ça. Bon, toute cette complexité de notre relation, c'est la preuve même qu'il y a cette blessure en nous qui fait que ce qui devrait être simple et devient le lieu d'une difficulté.
Voilà, alors c'est un point qu'on peut peut-être souligner aujourd'hui, c'est que justement, cette présence de cette double nature, de ce combat en nous, si on le transpose vraiment à la vie conjugale, je crois qu'on l'a évoqué, mais on peut peut-être le souligner sous cet angle du combat spirituel. Quand aujourd'hui on fait des sondages auprès des jeunes, on voit bien que leurs modèles, leurs aspirations les plus profondes, croyants ou incroyants d'ailleurs, même musulmans, etc., à quoi ils aspirent? Ils aspirent à une vie amoureuse qui dure toute la vie, entre un homme et une femme, avec des enfants, et on regarde que finalement ce qu'ils attendent, mais c'est tout le modèle de la révélation biblique, de la révélation chrétienne concernant la vie conjugale. Et finalement, quelle est l'expérience contemporaine des couples? Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, l'expérience conjugale mène très souvent à la souffrance, à la déchirure, qu'ils n'arrivent pas à s'aimer, et quand finalement aujourd'hui les sociologues font des projections que 5 couples, 6 couples, 7 couples sur 10 viendront tôt ou tard à se séparer, une majorité, c'est pas de gaieté de cœur, c'est qu'à un moment il y a l'expérience d'une douleur qui est trop importante, qui fait qu'à un moment on est conduit à se séparer malgré toutes les aspirations qu'on mettait. Donc on voit bien, on a une aspiration profonde et notre expérience devient quasiment contraire. Donc malgré tout ce que nous avons dans le cœur comme aspiration, comme désir d'amour, on fait bien l'expérience qu'on n'arrive pas à aimer l'autre, on n'arrive pas à rentrer dans la communion auquel on aspire. Donc au cœur de la vie conjugale, mais celui que j'ai choisi, pour qui je veux construire un bonheur, etc. Mais je vois bien que j'ai tellement de mal à l'aimer. Donc on en fait bien l'expérience concrète de cette double nature.
Voilà, on fait l'expérience de notre incapacité à aimer comme on voudrait. Et on est, même intérieurement, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces petits dessins assez rigolos qu'il y avait dans Tintin, avec le petit Milou qui avait son petit ange d'un côté et le diable de l'autre pour savoir s'il devait aller chercher un os ou pas chercher un os. Ben, en fait, c'est très imagé, mais quelque part en nous, parfois, on sent très nettement une aspiration au bien et puis qu'on récupère ça vers nous en disant « mais finalement, ça va me coûter de faire ça ». Donc, on est tiraillé, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Alors même si on a envie, quelque part, ce retour sur soi fait que régulièrement, on pose pas l'acte en question et on va pas vers l'amour. Donc ce combat, on l'expérimente tous dans notre chair. On a dit et on a redit et on le redit encore une fois que le Christ est le sauveur de ce combat, c'est-à-dire que c'est lui qui va nous permettre de mener ce combat et d'être victorieux. Mais pour être victorieux, il va falloir aussi que nous, on mette notre énergie au service de ce combat.
Voilà, encore un autre domaine dans lequel peut-être les hommes, on est peut-être plus concernés, mais d'après ce qu'on observe également, de plus en plus de femmes également vivent ce combat, dans le domaine de la sexualité, de l'érotisme, de la pornographie, etc. Même si à un moment on désire vraiment être fidèle à sa femme, d'être pur au niveau de notre regard, etc., à des moments on sait bien qu'on est troublé par des images, par ceci, par cela, etc. Et c'est un vrai combat qui est en nous, effectivement, au mot de cette comparaison là des deux petits diablotins ou de petits anges avec Tintin et avec Milou, et ben effectivement pour des choses beaucoup plus graves, effectivement à des moments on est partagé, on est tenté, on voit bien que différentes forces en nous cohabitent en nous et que nous avons vraiment un vrai combat à mener.
Oui, et parfois même ces forces sont mélangées, on ne sait pas très bien, c'est pas aussi clair que dans la BD de savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien.
Exactement.
Voilà, on sent deux possibilités, trois possibilités, puis on a du mal à choisir, on a du mal à discerner ce qui est juste et pas juste.
Voilà, et ce qu'on avait évoqué dans une autre émission, c'est que bon, justement c'était toute la vie dans l'esprit qui permet de discerner les fruits de l'esprit. À la fois la parole de Dieu, l'éclair, au niveau de la vérité, mais à des moments quand le discernement est délicat, essayez vraiment de prier, de se laisser guider par l'Esprit Saint. Donc, mais ne dévions pas de ce qu'on essaie d'aborder aujourd'hui, c'est toute cette question donc de mener ce combat. Et Paul insiste clairement et prend d'ailleurs les termes du combat quand il dit « revêtez l'armure de Christ et prenez les armes du combat ». Voilà, on n'est pas dans une gentillette petite histoire. À des moments, on essaie de tanker un peu les chrétiens dans des personnages un peu gentils, gentillets, etc. Non, la foi, l'incarnation de notre foi, vivre l'évangile, c'est effectivement de l'ordre du combat.
Voilà, alors je dirais en riant que j'aime bien les choses viriles, et là en l'occurrence c'est franchement viril, c'est-à-dire que le Seigneur nous invite à prendre ce combat à bras-le-corps, en utilisant des outils qu'on détaillera dans une prochaine émission. Mais une chose qu'il faut quand même rajouter, c'est que nous vivons ce combat dans l'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire l'espérance chrétienne? L'espérance chrétienne, c'est que nous savons que comme le Christ est ressuscité, notre combat, l'issue est victorieuse. Si nous rentrons dans ce salut du Christ, nous savons qu'à l'avance, nous pouvons être victorieux. Heureusement qu'on le sait, parce que sinon on aura de quoi se décourager. Mais c'est vrai que ça va passer dans l'épaisseur de notre humanité et dans ce combat dans lequel, évidemment, on prend parfois des coups.
Voilà, écoutez, c'est dans cette confession de foi, dans l'espérance que le Seigneur nous accompagne dans ce combat, qu'on demande vraiment au Seigneur de venir vous bénir tous les uns et les autres, et particulièrement les couples, dans les combats qu'ils ont à mener dans leur vie, sur de multiples fronts, et qu'avec le Christ, nous sommes vainqueurs. Allez, soyez bénis, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
The intimate friendship of the Holy Spirit.